Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le projet de nouvelle constitution en Tunisie, les Tunisiens de l'étranger sont appelés à se prononcer dès demain, un référendum lundi prochain en Tunisie. Gros plan sur le prochain sommet de la francophonie en novembre prochain, ce sera à Djerba. Nous y reviendrons avec Rayad Chaibi, président de l'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Le président égyptien s'est rendu à Paris aujourd'hui, Abdel Fattah al-Sissi a été reçu par Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail à l'Élysée. L'aggravation de la crise alimentaire au Soudan, la Banque mondiale a annoncé débloquer 100 millions de dollars pour des transferts d'argent et de nourriture. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2022, demain, les footballeuses marocaines, les Lionnes de l'Atlas, joueront face à l'Afrique du Sud. Notre invité sera Hamza Achlaf, journaliste sportif à 2M.ma. L'invité de parcours demain sera l'écrivain et peintre marocain Mahi Binbin. Il explique comment il est devenu peintre à l'âge de 25 ans, un peintre exposé aujourd'hui dans le monde entier, extrait dans votre édition. Les Tunisiens sont invités à se prononcer sur une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs du chef de l'État. Le projet de la nouvelle loi fondamentale est composé de 10 chapitres et compte 142 articles. Le scrutin débutera demain pour les Tunisiens à l'étranger. Il aura lieu lundi en Tunisie. Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections fait état de 9 272 000 électeurs inscrits au registre électoral. De nombreuses personnalités de la société civile craignent une concentration des pouvoirs entre les mains du chef de l'État Kais Saied. Coup de projecteur sur le prochain sommet de la francophonie en Tunisie. En novembre prochain, ce sera à Djerba. Entretien avec Rayad Chaibi, président de l'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Rayad Chaibi.
C'est un formidable événement pour la Tunisie puisque la Tunisie est un des membres fondateurs de la francophonie. Et puis accueillir ce sommet en Tunisie, à Djerba qui plus est, et dans ce joyau bleu qu'est la Tunisie, accueillir l'ensemble des acteurs de la société civile, accueillir les acteurs économiques pour, définir ensemble un nouveau cadre de coopération dans l'espace francophone. C'est évidemment, en plus dans ces temps de crise économique et sociale, c'est bien évidemment important pour la Tunisie et pour l'ensemble de l'espace francophone. Et je suis très fier que la Tunisie puisse être le porte-étendard de ce sommet et qu'elle soit également un des leaders. Elle a toujours été en réalité, mais qu'elle confirme sa place de leader de l'espace francophone. Elle a marqué l'histoire et elle continue de marquer l'histoire de la francophonie. Et j'espère qu'à Djerba, on confirmera la place importante qu'occupe la Tunisie dans l'espace francophone, dans la francophonie et dans le cœur de chacune et de chacun qui, comme moi, aime la francophonie et considère que c'est un outil formidable de développement et d'épanouissement.
Et quel regard portez-vous sur l'évolution de l'influence de la francophonie?
Vous savez, je pense que ce sera un mensonge de dire que la langue française, se développe dans le monde. Ce serait un mensonge que de dire cela. Bien au contraire, on voit que les langues anglo-saxonnes prennent le pas. Et donc, il y a une très grande nécessité à réaffirmer que la langue française, c'est pas simplement, un idéal ou c'est pas simplement un outil linguistique, mais c'est aussi, la francophonie, c'est également, un levier de développement, et la langue française doit être également être un levier de développement pour l'éducation, pour la culture, pour l'économie sociale et solidaire, pour le numérique. Il faut réaffirmer la place de la langue française, pas simplement comme un outil linguistique, mais comme un levier de développement. Et donc, il est important qu'on puisse se mobiliser pour d'abord faire connaître la francophonie, parce que c'est aussi ça qui est important. Si aujourd'hui, la langue française baisse, en tout cas dans le monde, c'est parce que on doit, je pense, faire davantage pour faire connaître la francophonie. Je pense que c'est important de lui donner une plus grande visibilité et de montrer que finalement, un outil linguistique qui sert aussi d'outil de développement. Mais ça, c'est à nous, acteurs de la société civile et acteurs institutionnels, de nous mobiliser pour mettre en lumière et en relief la langue française.
Et sur l'action de l'exécutif tunisien sur cette question, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre point de vue en ce jour important pour la Tunisie, les Tunisiens qui sont appelés à se prononcer ce lundi sur une nouvelle constitution?
Vous savez, la Tunisie a toujours, eu pour le sommet de la francophonie un intérêt particulier. Sinon, elle ne l'aurait pas accueilli sur ses terres et je ne pense pas que l'OIF aura accepté que la Tunisie accueille ce sommet. La Tunisie accorde une très grande importance, un boulot absolument énorme a été entrepris et a été fait par le comité national chargé de l'organisation du sommet. Tout a été mis en œuvre pour accueillir comme il se doit l'ensemble des personnes et des invités qui auront le plaisir et le bonheur d'assister à ce sommet. Il y a un très grand intérêt parce que, encore une fois, la Tunisie est un des leaders de l'espace francophone. C'est, un père fondateur, c'est un pays fondateur de la francophonie à travers le président Habib Bourguiba. Donc forcément, toutes les énergies ont été mises en commun pour faire de cet événement une réussite. Et donc, et d'ailleurs, j'ajoute que à l'occasion de ce sommet, ce sera la première fois que nous aurons un forum économique de la francophonie, ce qui est une première, et ça se déroulera en Tunisie. Ça démontre évidemment l'intérêt que porte la Tunisie pour cet événement, et surtout l'intérêt qu'elle porte à la nécessaire, concentration des énergies pour adopter et impulser une nouvelle dynamique économique qui soit profitable à la Tunisie et à l'ensemble des pays de l'espace francophone.
L'espace francophone, qui vous le soulignez, est aussi une puissance économique.
C'est une puissance économique, il y a 300 millions de locuteurs dans le monde. C'est une puissance économique parce que il y a différents acteurs qui agissent au quotidien. Je pense au groupement du patronat francophone, je pense au Forum francophone des affaires, je pense également à l'Alliance du patronat francophone qui est née il n'y a pas si longtemps, en mars dernier à Tunis d'ailleurs. Et donc, il y a nécessité pour ces acteurs économiques de mettre en synergie leurs forces pour faire de l'économie un instrument de développement et surtout mettre l'économie au service de la solidarité. Et donc, cet événement à Djerba doit être l'occasion de réaffirmer la place, de l'économie comme instrument de solidarité au sein de l'espace francophone. Et donc, ce sera une formidable occasion pour, impulser et... une nouvelle dynamique économique au service des populations.
Rayed Chaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Le président égyptien s'est rendu à Paris aujourd'hui. Abdel Fattah al-Sissi a été reçu par Emmanuel Macron. Il a déjeuné avec lui à l'Élysée. La dernière visite du président égyptien à Paris remontait à novembre 2021. Elle était consacrée à une tentative de résolution du conflit libyen. Le chef de l'État qui était cette semaine à Berlin pour participer à une conférence internationale sur le climat. L'un des enjeux était l'organisation de la COP27 qui se tiendra en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'aggravation de la crise alimentaire au Soudan. La Banque mondiale a annoncé débloquer 100 millions de dollars pour des transferts d'argent et de nourriture, des fonds alloués uniquement via le programme alimentaire mondial. Le Soudan, où l'aide internationale reste suspendue, une mesure en rétorsion au putsch des militaires en octobre dernier. De violents combats ont éclaté la nuit dernière entre des milices dans la capitale libyenne, des combats à Tripoli qui ont fait 3 morts parmi les civils ainsi que 2 blessés. La guerre en Syrie, 7 personnes dont 4 enfants sont mortes dans des bombardements russes dans la région d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie, le dernier grand bastion rebelle du pays. L'Union européenne annonce avoir sanctionné 6 Syriens et une société privée de sécurité pour leur implication dans le recrutement de mercenaires dépêchés en Ukraine afin de combattre pour le compte de la Russie. Les personnes et entités sanctionnées sont interdites de se rendre dans les pays de l'Union européenne. Les sanctions prévoient également le gel de leurs avoirs. La Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2022, qualifiée pour la finale après leur victoire sur le Nigeria, les footballeuses marocaines, les Lionnes de l'Atlas, se tournent désormais vers la rencontre contre l'Afrique du Sud demain, samedi. Hamza Achlaf, journaliste sportif, à deuxième point, Emma.
Un appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que, on disait que la demi-finale était déjà un exploit et qu'il faut juste mouiller un maillot contre le Nigeria. Là, on est en finale contre une sélection qui est aussi forte que le Nigeria, l'Afrique du Sud. Je pense que l'avantage avec cette équipe marocaine féminine, c'est qu'il n'y a jamais de pression. C'est-à-dire que les attentes n'étaient pas aussi immenses, et c'est toujours le cas, attention. C'est-à-dire que déjà atteindre la finale était un exploit. Donc samedi, je pense que le stade sera plein à craquer, comme d'habitude. Je pense que les efforts vont se redoubler pour assurer une belle organisation, une belle clôture pour cette CAN. On a vu cette semaine les tweets et les réactions de la FIFA qui est épaté par la présence des supporters lors des matchs de l'équipe nationale. Donc, je pense pas qu'on pouvait avoir un meilleur scénario que celui-là, que de voir justement le Maroc présent en finale, et donc une finale qui se joue avec des guichets fermés, même si l'entrée est gratuite. Et donc, voilà, je dirais que ce sera un match très difficile, attention, pour les deux équipes, avec un avantage, il faut le dire, de l'Afrique du Sud, qui est favorite, de par son histoire, de par son travail sur le foot féminin qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais je pense que le 12e joueur qui est le public, je pense qu'il aura son mot. On l'a vu contre le Nigeria, la présence des supporters a été décisive. Et je pense que ça sera aussi contre l'Afrique du Sud. Je reste optimiste. Les Lions peuvent justement remporter cette CAN et la garder à la maison.
Quels sont les principaux atouts des Lions de l'Atlas face à l'équipe sud-africaine?
Ouais, je dirais cette homogénéité et l'harmonie qui règne dans ce groupe, parce que il y a une sorte de stabilité sur la formation de départ depuis le début de cette CAN, ce qui est important. Je dirais aussi l'avantage d'avoir un groupe très très puissant d'un point de vue mental, et c'est indispensable pendant ce genre de tournoi qui se joue sur quelques jours. Le volet humain et le volet mental priment sur beaucoup de choses. Voilà. Après, c'est une équipe très technique, avec beaucoup de talent, avec beaucoup de possibilités individuelles, à travers notamment Reza Chepek, Fadri Metagnaus, Sana Msoudi et d'autres joueuses. Et face à une équipe de l'Afrique du Sud, puissante physiquement, rapide, et très tactique. Voilà. Donc, on aura droit à deux footballs différents, deux écoles différentes, avec deux histoires différentes. Je pense que celui qui saura justement gérer le côté mental, attention, je pense que c'est celui qui justement sera certainement gagnant. Après le CFI final de l'arbitre.
Hamza Achlaf, journaliste sportif à 2M.ma. Le projet de loi pour le pouvoir d'achat a été adopté tôt ce matin par l'Assemblée nationale en première lecture. Il s'agit de répondre à la forte inflation qui touche la France. Les députés ont notamment voté en faveur de la revalorisation des retraites et des prestations sociales, mais aussi de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé et du plafonnement de la hausse du montant des loyers à 3,5%. L'opposition de gauche demandait un gel des loyers. L'invité de parcours demain sera l'écrivain et peintre marocain Mahi Binbin. Il explique comment, notamment, il est devenu peintre à l'âge de 25 ans, un peintre exposé aujourd'hui dans le monde entier. Extrait de cette émission.
J'ai su que j'étais artiste, mais je savais pas quelle voie emprunter, artiste en quoi. Quand je chantais, on m'a dissuadé. Moi, je voulais devenir chanteur de charme. On m'a dit non, c'est pas pour toi, tu chantes comme une casserole. Mais je jouais de la musique. Je cherchais ma voix. Et puis, la chance de ma vie, ça a été la rencontre avec Agustin. Non seulement il m'a poussé à écrire, il m'a corrigé mon premier livre, il m'a trouvé un éditeur, mais en plus, il était l'ami de tous les peintres de la place. Et donc, je l'accompagnais dans les ateliers d'artistes. Et je me disais, mais moi, je veux faire pareil. J'avais 25 ans et je bouillonnais, parce que quand on commence des carrières d'artiste, on bouillonne. Et on veut vite et on veut tout de suite arriver.
En fait, le secret que vous êtes en train de nous livrer, c'est qu'il faut d'abord s'autoriser soi-même à rêver. ça n'est pas donné à tout le monde d'être artiste, mais il faut au moins vouloir l'être.
Absolument. Et si aujourd'hui j'ai 5 centres culturels pour les gosses au Maroc, dans tous les bidonvilles marocains, Casa, Tanger, Agadir, Marrakech, Fès, c'est pour dire aux enfants, regardez le monde. Le monde, comment il s'ouvre quand on respire l'art, quand on veut prendre cette voie. Ce qui est arrivé avant en France, avec les MJC et tout ça, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté, cette histoire ici. Je comprends pas pourquoi, mais les banlieues, elles gagneraient énormément à prendre notre exemple, ou à revenir à l'exemple ancien où la culture était dans toutes les banlieues, tous les coins défavorisés. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qu'on m'a donné, j'essaie de le redonner à mon tour.
Et donc, vous avez vu des peintres, vous les avez vus travailler, vous vous êtes dit, et pourquoi pas moi?
Et pourquoi pas moi? Et me laisser voir, il me laissait les regarder travailler. Et il y avait Georges Bagori, il y avait Miguel Galanda, il y avait, avec lequel on a fait des tableaux à quatre mains. Il y avait beaucoup d'artistes qui étaient des amis d'Agustine, et on allait boire un verre dans leurs ateliers. Et un jour, j'ai acheté du papier canson et de la gouache, et je me suis mis dans ma salle de bain. J'avais un petit appartement de 18 mètres carrés, et j'ai peint. Évidemment, la chance que ont les gens ici dans ce pays, c'est qu'ils peuvent faire tous les musées. Nous, on n'a pas de musée, on en a un ou deux. Là, quand je me balade au Louvre ou dans le musée d'art moderne et je vois les gosses assis en train de dessiner, c'est extraordinaire. Nous, on n'a pas ça. Hein. Et donc, à 25 ans, j'ai fait mon apprentissage que j'aurais dû faire 15 ans plus tôt dans les musées, voir. Donc, à chaque fois que j'allais dans un pays, la première chose, c'était les musées.
L'écrivain et peintre marocain Mahi Binbin, il est l'invité de Parcours demain samedi à 11h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.